Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Voilà deux semaines maintenant que nous sommes à nouveau confinés, un temps étouffant et bien trop long pour certains, ou pas si pesant que cela pour d'autres, solitude ou pas, travail ou pas, espace ou pas. Si nous ne sommes pas tous égaux face à ce confinement, tous avons l'impression de vivre ensemble une épreuve. Épreuve à laquelle s'ajoute pour les croyants une certaine épreuve de la foi, privés qu'ils sont depuis deux semaines de la liturgie dominicale et de la vie de l'Église. Et si Dieu pourtant, lui, dormait au fond de la barque? C'est un peu le pari que nous avons fait en vous proposant au début de chaque semaine une série d'émissions sur la prière, car Dieu, lui, n'est pas en quarantaine. Trouver Dieu chez soi, deuxième, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, en ce lundi, et nous sommes avec vous, deuxième carme donc de notre mois, Jean-Mariam de l'Enfant Jésus, vous êtes religieux carme, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir pris du temps pour sortir de votre carmel. Vous me disiez que c'était la première fois depuis ce temps de confinement que vous l'aviez fait. Alors, faut-il le rappeler, nous sommes en semaine de Radio Don, chers auditeurs. Et si vous écoutez la radio, si vous écoutez Vivante Église, si vous aimez cette antenne, eh bien, comme on vous le dit depuis ce matin, cette radio ne se fait pas sans vous. Donc, je ne peux que vous inviter à vous manifester et à nous dire de manière sonnante et trébuchante votre attachement à cette antenne, un seul numéro de téléphone 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00. Jean-Mariam de l'Enfant Jésus, alors charge à vous de continuer à nous prendre par la main pour la prière. La semaine dernière, c'était donc une émission d'introduction. On a essayé de voir en fait ce qu'était la prière, tout simplement. Et avec vous, ce matin, on va plonger un peu plus profond et voir les différentes formes de prière. J'avais posé la question de manière un peu malicieuse à votre frère la semaine dernière, qui certainement s'était levé tôt comme vous, et je lui avais demandé s'il avait rencontré Dieu, s'il avait vu Dieu avant de venir à la radio. Alors vous, est-ce votre cas aussi?
Oui, faisant partie de la même communauté, je l'ai rencontré aussi, Dieu. Mais je l'ai vu, mais pas comme je suis en train de vous voir, Emmanuel. Enfin, c'est une vision dans la foi, on va dire. Je sais qu'il est là, voilà, dans ce moment de prière que nous prenons tôt le matin, ensemble, en communauté, mais je ne le vois pas avec les yeux de mon corps. Voilà.
Est-ce que ma question vous fait sourire, mais j'imagine que par moments elle doit aussi vous brûler intérieurement, parce que quand on donne sa vie comme ça pour être en dialogue avec Dieu ou pour la prière, est-ce qu'on se désole parfois que dans le fond peu de chrétiens ou pas tant que ça osent se lancer dans l'aventure de la prière?
Alors bien sûr, on se désole. Moi j'aimerais bien me désoler davantage encore que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Je me désole aussi de moi-même, que quelquefois je ne suis pas assez présent à la présence de Dieu, en fait, vous voyez. Hein, donc cette désolation, elle est un peu pour tout le monde, vis-à-vis des autres qui ne prient pas assez, et puis vis-à-vis de moi qui prie mal, en fait, ou qui ne suis pas assez présent à Dieu dans les moments de prière, quoi.
Alors, votre frère avait répondu avec beaucoup de sagesse à toutes mes petites perturbations. Il faisait office un peu de première ligne de rugby. Ça tombe bien, parce qu'il était devant. Vous vouliez commencer par nous redire quelles étaient les sources de la prière, c'est-à-dire quelque part, pour répondre plus sérieusement à ma question, comment est-ce qu'on rentre en relation, par quelle médiation, par quels moyens? Il y a des moyens très simples, c'est un peu les deux piliers, hein, de la vie chrétienne, ce sont les écritures et la tradition. Alors c'est-à-dire,
oui, vous faites bien de commencer par ça, Emmanuel. Je voudrais commencer, j'ai une Bible sous les yeux là, et je voudrais commencer justement par ce premier pilier que vous évoquiez sur les Écritures, la parole de Dieu. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, on lit ceci, hein, au chapitre 6e, « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » C'est magnifique. Hein. Et en fait, on a là toute la source, tout le fondement de la prière en fin de compte. Hein. Donc quand on dit que la grande source de la prière, c'est la parole de Dieu, eh bien en fait, c'est Dieu qui a quelque chose déjà à nous dire dans la prière. Et là, on voit ce que Dieu nous dit à travers les Saintes Écritures, à travers la Bible. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie. Hein, c'est-à-dire, retire-toi dans ton cœur, fais silence autour de toi et adresse-toi à Dieu qui est comme ton Père.
Voilà. Ça veut dire que quand on se plonge dans les Écritures, donc quand on lit les Évangiles, c'est vraiment quelque part Dieu qu'on rencontre ou c'est juste une parole en fait qui nous parle de quelqu'un.
Alors c'est une parole qui nous parle de Dieu et c'est une parole. Alors là, il y en a peut-être qui vont avoir du mal à comprendre, mais moi-même j'ai du mal à comprendre. C'est une parole qui est Dieu en fait. Vous voyez, la parole que l'on écoute dans les Écritures, c'est Dieu lui-même. C'est son Fils en fait. Alors c'est je peux pas vous expliquer plus. C'est le mystère de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, puis j'ai rien dit parce que c'est tellement grand, quoi. Mais en fin de compte, la parole que l'on entend dans les Écritures, c'est Dieu lui-même qui nous parle, qui nous donne son Fils. Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre dans ces sources de la prière, avec la parole de Dieu et puis la tradition, c'est-à-dire la parole de Dieu qui se déploie au fil des siècles jusqu'à nous aujourd'hui.
Alors, ce deuxième pilier, c'est quoi? Parce que là, la tradition, on n'a pas un autre livre, vous n'avez pas un autre livre alors, pour dire, voilà, ça, c'est la tradition.
On a plein d'autres livres, si vous voulez, pour la tradition. J'ai apporté aussi, par exemple, le catéchisme de l'Église catholique. C'est un bon résumé de la tradition que l'Église nous a donné suite au Concile Vatican II. Mais effectivement, la tradition, c'est cette parole vivante qui se déploie à travers les siècles par la bouche, attention, il y a un grand mot là, du magistère, c'est-à-dire du pape et des évêques en communion avec le pape, qui nous parle, en fait, qui déploie tout ce qui est compris dans la parole de Dieu, comprise dans les Écritures saintes.
Et pourquoi l'un, entre guillemets, ne marche pas sans l'autre? Pourquoi est-ce qu'il faut, quelque part, essayer de se nourrir des deux?
Parce que si on a seulement les Écritures, comment je vais savoir la manière de les interpréter? Parce que moi, je suis là, vous êtes là, Emmanuel, il y en a d'autres qui nous écoutent. Peut-être chacun de nous, on a une manière d'interpréter différente les Écritures. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est une manière qui va dans la manière d'interpréter de Jésus lui-même, quoi? Et ben ça, c'est la tradition qui va nous aider à interpréter de manière juste les Écritures. Il y a des choses. Là, c'est le passage que j'ai lu. Il est tout simple. On le comprend du premier coup. Mais il y a beaucoup d'autres passages qui sont difficiles à interpréter.
Alors, donc, on ferme la porte de sa chambre. On se tient, donc, on va dire, dans le silence. On a déjà, en fait, quelque part du monde avec nous, à vous entendre, puisqu'on a Dieu lui-même et toute la tradition, donc la vie de l'Église depuis 2000 ans. Voilà. Ça te fait déjà du monde dans la pièce.
Ah ouais, c'est énorme, parce qu'on a Dieu lui-même. Excuse-moi, je vous coupe, mais on a Dieu lui-même. Et avec Dieu, on a le ciel. Vous voyez, c'est-à-dire on a la Vierge Marie, sa mère, on a tous les saints du ciel, c'est énorme. En fait, on n'est jamais seul dans la prière. Alors, on a l'impression, quand on ferme la porte de sa chambre, qu'on est tout seul, physiquement, et physiquement on l'est, mais en fait, il y a un monde fou avec nous, quoi, qui prie avec nous et qui prie pour nous. C'est ça qui est extraordinaire.
Alors, vous vous rappelez aussi qu'il y a la liturgie de l'Église, dont on est en grande partie aujourd'hui privé, liturgie des heures, la messe, les
Exactement.
Autres sacrements.
Ouais. Alors ça, c'est comme un condensé, si vous voulez, de la parole de Dieu et de la tradition. C'est-à-dire, c'est l'Église qui nous donne comme nourriture la parole de Dieu et la tradition dans la messe, dans la liturgie des heures, dans une prière qui est déjà formulée par elle-même, par l'Église, et qui est vraiment la prière de l'Église. Je vais utiliser aussi des mots peut-être un peu étonnants pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais la prière de l'Église à son époux. La prière de l'épouse à son époux, de l'Église à son Christ, quoi.
Alors je vous propose, comme ça, quelque part, on en est un peu privé, ou alors que c'est l'habitude que l'on a, et qu'aujourd'hui on insiste surtout sur cette prière personnelle quand on ferme la porte de sa chambre,
oui.
C'est un peu le sens de cette série. On va passer donc aux trois clés. Alors votre frère en avait parlé la semaine dernière, mais vous vouliez réinsister. Il y a comme trois portes d'entrée, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, pour rentrer en relation avec Dieu, c'est donc la foi, l'espérance et la charité. Qu'est-ce que vous vouliez nous redire là-dessus?
Tout à fait, ouais. Alors, avec, si vous voulez, avec la parole de Dieu, la tradition et puis avec la liturgie de l'Église, la foi, l'espérance et la charité font partie des sources de la prière. C'est-à-dire que si je n'ai pas la foi, bah, bien sûr, je ne vais pas prier. Si je ne crois pas que Dieu est une personne, enfin trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je ne vais pas rentrer en relation avec lui. Ça ne sera pas possible. Donc la foi est vraiment la porte d'entrée de la prière. Alors peut-être il y en a qui disent « Oui, mais moi je ne suis pas sûr que Dieu existe, alors je lui ai fait cette prière, Seigneur, si tu existes, bah, c'est déjà la foi ça, vous voyez, puisqu'on s'adresse à quelqu'un, on ne parle pas dans le vide, même en disant « si tu existes ». Et puis l'espérance est là pour nous rappeler qu'on a cette certitude d'attendre dans la prière Jésus qui vient, quoi. Dieu qui vient à nous.
Alors je retrouvais justement dans le catéchisme de l'Église catholique, vous citiez ce livre qui est comme une espèce de condensé de la tradition, « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. »
Voilà, voilà, voilà. Oui. C'est-à-dire, l'espérance nous fait désirer le ciel. Voilà. C'est-à-dire, nous fait désirer la vie éternelle, c'est-à-dire cette vie de bonheur avec Dieu pour toujours. C'est extraordinaire.
Mais lire le catéchisme de l'Église catholique, c'est déjà comme une manière de le rendre présent. Ça veut dire
exactement,
quoi, en fait ?
Exactement. Bah, c'est-à-dire que... alors, c'est une formule qu'on utilise dans la théologie que les auditeurs ont certainement déjà entendue. C'est le déjà-là et pas encore du royaume. Voilà, le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu au milieu de nous, est déjà là, au milieu de nous. Mais il n'est pas encore là, parce qu'il est déjà là, mais on ne le voit pas. Et il n'est pas encore là, parce qu'un jour, on va le voir face à face.
Et alors la charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus tout, toute chose pour lui-même et notre prochain. Alors j'aurais pu choisir un autre passage.
Non, c'est un bon passage.
C'est un bon passage.
Oui, c'est-à-dire que ça nous rappelle que par la prière, eh bien, on puise à la source pour aimer Dieu et notre prochain. Sans prière, c'est-à-dire sans cette relation personnelle avec Dieu, on ne peut pas aimer notre prochain en vérité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que aimer, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'on a du mal à bien comprendre et à bien approfondir pendant toute une vie, et je pense que c'est l'objet de la vie de nous aider à toujours mieux aimer, mais on s'aperçoit que par nos propres forces, par nos propres moyens, si on fait attention, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aimer en vérité. Il y a toujours des choses qui se bloquent, il y a des difficultés à pardonner, des difficultés à accepter l'autre, etc. Donc on a besoin d'un amour plus grand qui est Dieu et auquel on puise dans la prière pour s'en laisser remplir et ensuite pouvoir aimer nos frères comme Dieu les aime, quoi. Enfin, je sais pas si...
Ah, vous êtes clair, oui. Pas de surprise. Je proposais donc pour chaque partie d'émission de prendre un exemple et d'avoir comme exemple un auditeur type. C'est l'auditeur type qu'on avait choisi en partie la semaine dernière.
Ouais.
Donc catholique moyennement pratiquant. Alors peut-être moins pour cette émission, hein, mais aussi surprenant que ça puisse paraître pour les auditeurs. C'est 50% des auditeurs qui sont des catholiques non pratiquants. Ouais. Un homme ou une femme, donc d'environ 50 ans. Elle vous a écouté... J'imagine que c'est des choses que ce sont des personnes que vous rencontrez, même dans vos apostolats. Hein.
Oui.
Mais entre vous entendre nous dire cela et croire en fait qu'on a en soi quelque part, j'allais dire, comme le logiciel pour rentrer en relation avec Dieu, qu'est-ce que vous diriez pour finir de les persuader ?
Alors, moi, je ne cherche pas à les persuader. Je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas une dérobade, hein, Emmanuel. c'est juste pour bien dire que si une personne souhaite prier, souhaite rentrer en relation avec Dieu, la seule chose que Dieu lui demande au départ, c'est sa bonne volonté. Voilà. Donc moi, je pourrais utiliser tous les arguments pour la persuader, pour essayer de dire ouais, « si tu vas voir, essaye, ça va transformer ta vie, c'est extraordinaire », lui donner tous les témoignages que je connais, etc. Ça fera rien si au départ, il n'y a pas cette bonne volonté de se dire « bah, ouais, je vais essayer de rentrer en relation avec ce Dieu dont on me dit que c'est quelqu'un de vivant et qui apparemment m'attend dans la prière. » Bon, s'il n'y a pas cette petite bonne volonté au départ, cette étincelle, moi j'aurais beau dire tous les trucs, ça ne servira à rien, quoi.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en semaine de Radio Don. Et si vous voulez que le lundi matin, eh bien, on puisse continuer à inviter un frère Carme pour nous parler de la prière, eh bien, il faut nous soutenir. Et je vous mets au défi de trouver une autre radio qui propose ça le lundi à 9h04 dans toute l'Occitanie. On a besoin de vous. Un seul exemple, un émetteur FM pour nous, c'est 10 000 euros. Récemment, on en a installé un, sauf erreur de ma part, dans les Pyrénées pour essayer de gagner toutes les vallées. On en installe de temps à autre. 10 000 euros, on ne vous demande pas 10 000 euros, mais les petits dons font les grandes rivières. Des dons qui, évidemment, sont défiscalisés. Hein, 100 euros de dons, ça fait au final 34 euros pour vous. Un seul numéro de téléphone, 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou alors notre site internet www.radioprésence.com.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Trouver Dieu chez soi, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et nous sommes avec vous, frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus. Vous êtes religieux carme pour nous accompagner dans cette deuxième émission de cette série donc sur la prière à l'occasion de ce temps de confinement. On s'est dit qu'il était heureux de se rendre compte ou de s'en persuader que l'on peut peut-être trouver Dieu chez soi en dehors de la vie de l'Église dont on est privé en ce moment. Alors vous vouliez vous arrêter dans cette deuxième partie donc sur les différentes formes de prière. On va les détailler. C'est vrai que, on va dire, on est riche, comme vous disiez en première partie, de l'écriture, de la tradition. Vous disiez que ça fait du monde, mais on est riche aussi de multiples formes de prière. Chacun un peu peut-être la sienne. Vous vouliez commencer par nous raconter une histoire, celle d'un enfant. Alors racontez-nous.
Alors c'est une histoire que certainement les auditeurs connaissent, hein, que j'ai trouvée dans un livre. Je l'ai pas inventée. C'est l'histoire d'un enfant qu'on va appeler Théophile pour bien faire comprendre à nos auditeurs et bien faire rentrer dans leur cœur que la prière, c'est une question d'amitié avec Dieu. Théophile, ça veut dire l'ami de Dieu. Donc Théophile, c'est un petit garçon de 7 ans et il a envie d'avoir un vélo parce qu'il a vu qu'il avait des cousins qui avaient un vélo, qu'il aimerait bien en faire, etc. Donc il va voir son papa, voilà, et il lui dit « Papa, est-ce que je pourrais avoir un vélo, s'il te plaît ?» J'essaierai d'avoir des bonnes notes à l'école, tout ça, tu vas voir, je vais faire des efforts, voilà. Donc il lui demande, est-ce que je pourrais avoir un vélo ? C'est la demande, il demande à son père quelque chose. Son père, qui aime Théophile, eh bien, accède à cette demande et lui donne son vélo. Alors que fait Théophile ? Avant même de monter sur son vélo, comme c'est un petit garçon poli, il remercie son papa. « Merci beaucoup, papa voilà. !» Et ensuite, il enfourche son vélo et il part faire du vélo dans la nature. Et là, il se met à chanter tellement il est content de pouvoir faire son vélo. Du vélo comme ça, comme ses cousins. Alors, il chante « Ouais, youpi, tralala, c'est génial, mon papa, c'est le meilleur des papas, il m'a offert un vélo, c'est extraordinaire. » Voilà. Donc, il est dans une espèce d'exultation intérieure. Et puis ensuite, il rentre le soir, il va remercier son papa encore pour ce bon tour de vélo qu'il a pu faire. Et puis, avant d'aller se coucher, il va passer un petit peu de temps dans le salon avec son papa qui est assis dans le canapé en train de lire un bouquin en fumant sa pipe ou je sais pas trop quoi. Bon. Et puis il est là, Théophile, à côté de son papa. Et il regarde son papa. Voilà. Et il reste en silence et il dit « Oh, papa, quand même !» Il se dit comme ça, en lui, sans exprimer vocalement, quoi, mais en lui, il se dit quand même « Papa, ouais, oh, il est extraordinaire ce papa. Quoi. Il m'a donné mon vélo et puis plus que le vélo. Quoi. Enfin, pff, il m'a donné la vie. » Tout ça. Enfin, il regarde son papa comme ça, un peu dans l'admiration. Et puis ensuite, le lendemain, il va voir son papa et lui dit « Papa, est-ce que tu pourrais... acheter un deuxième vélo pour mon petit frère aussi. Parce que ce serait bien qu'on puisse faire du vélo ensemble. » Et bien là, vous voyez, on a les cinq formes de la prière. La prière qui est qui est une relation avec Dieu qui est un père. Hein. Faudrait vraiment que... Alors, je sais bien qu'on a tous une image du père qui est plus ou moins vraie ou plus ou moins fausse, parce que forcément, on plaque, quand on entend père, on plaque tout de suite les images qu'on a de notre propre père. Alors peut-être on a eu un super papa, peut-être on a eu des expériences malheureuses avec notre papa, mais quoi qu'il en soit, Dieu est un père qui est au-delà de toutes ces bonnes ou mauvaises images que notre papa de la terre peut nous donner, quoi. Dieu est à la source de toutes les paternités. Et alors, dans cette relation qu'on a avec Dieu, qui s'exprime par la prière, la première chose qu'on fait souvent avec lui, c'est la demande.
Alors voilà, justement, on demande. J'aimerais juste rebondir là-dessus parce que je me suis dit, tiens, il est cool ce carme, parce qu'en général, on se fait plutôt en guirlandais quand on dit, on entend plutôt, bon, faut dire la prière, c'est pas que demander, il faut apprendre à remercier, il faut savoir intercéder pour le monde, etc. Et alors, je me suis dit, cette prière de demande, j'ai vu aussi ça. Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament ne contient pas de prière de lamentation, comme il y avait peut-être dans l'Ancien Testament. Il y a c'est-à-dire en fait qu'aussi, on va dire, on peut s'appuyer justement aujourd'hui sur un nouveau registre pour... qu'est-ce qui fait que dans le Nouveau Testament, je vais poser ma question plus simplement, justement, il y a moins de lamentations. On s'adresse à Dieu quelque part plus, peut-être plus simplement, j'ai envie de dire, ou avec encore plus de confiance.
Ben, en fait, moi, la réponse qui me vient comme ça, il y a moins de lamentations dans le Nouveau Testament parce que Dieu est là, il s'est incarné, si vous voulez. Et tout l'Ancien Testament est là pour préparer l'arrivée de Dieu au milieu des hommes, donc Jésus. Hein. Et à partir du moment où il est là, ben, on n'a plus à se lamenter, il est là, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est une première réponse qui me vient, il y en a certainement d'autres. Mais dans la prière de demande, vous faites bien de souligner, Emmanuel, que la prière de demande, c'est la première prière qui nous vient à l'esprit. Alors, spontanément, hein. Mais attention, il ne faut pas demander n'importe comment, parce que souvent, les fidèles prient le Seigneur pour demander des choses qui les intéressent. Enfin, ils se mettent d'un seul coup à se dire, bah, tiens, Dieu existe parce qu'ils sont en difficulté, alors ils vont demander que Dieu leur enlève cette difficulté.
En même temps, tous nos besoins, quelque part, ou toute notre vie, c'est ce qu'il faut entendre en positif, intéressent Dieu.
Ah, tout à fait, tout à fait. Mais il y a un ordre dans la demande. Et vous voyez, quand vous faites bien de rappeler vraiment que la demande est la première, premier type de prière, c'est que quand les apôtres eux-mêmes vont voir Jésus pour lui dire « Maître, apprends-nous à prier », qu'est-ce que fait Jésus ? Il leur donne le Notre Père. Et dans le Notre Père, il y a sept demandes. Voilà. Alors, on ne va pas les reprendre ici, mais c'est pour vous dire que le Notre Père, qui est la prière du Seigneur, hein, la prière que Jésus apprend à ses apôtres, c'est une prière où il n'y a que des demandes. Mais il y a un ordre, c'est-à-dire on demande déjà le royaume, et ensuite, on va demander ce qui va nous aider à vivre dans le royaume.
Hein. C'est-à-dire, si vous deviez juste un tout petit peu détailler sur Notre Père.
Ouais. Alors déjà, le royaume, vous voyez, c'est, on demande déjà des choses pour Dieu, si vous voulez, dans la première partie, pour Dieu, c'est Dieu en premier, et ensuite des choses pour l'homme. Mais il faut
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ensuite, pour l'homme, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est les choses que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les choses d'ici-bas qui intéressent Dieu. Et avec le pain de ce jour, il y a le pain, j'allais dire, naturel, voilà, pour la nourriture. Mais il y a surtout le pain de l'Eucharistie, hein, qui fait tellement défaut aux fidèles en ce moment, quoi, hein. C'est surtout ça. Mais voyez, donc déjà, on s'intéresse à Dieu, on demande des choses pour lui, et ensuite, on demande des choses pour l'homme. Ces demandes, elles sont subordonnées au fait que Dieu, il vient au-dessus de tout, quoi.
Alors, deuxième phase, si on suit donc votre petit garçon, c'est ouais. La louange. Donc, il est
alors, non, il y a l'action de grâce, faut pas oublier l'action de grâce.
Il dit merci. Ouais,
voilà,
il
dit merci. Ça, c'est souvent, on pense à demander, mais on oublie de remercier. Hein. Et souvent, ce qui est important, c'est de remercier avant même qu'on ait reçu. Ça, c'est très important.
Alors, j'allais y venir, oui, c'est ça. Certains, il y a des bouquins hein, là-dessus.
Ouais, oui,
entrer dans l'action de grâce et dans la louange ouais. comme une anticipation, en fait, du fait qu'on va être exaucé, comme pour faire grandir justement cette espérance dont vous parliez en première partie,
exactement.
Qui est ce royaume ouais. des cieux ici maintenant.
Ouais, voilà,
ça rime à quoi, du coup ? Expliquez-nous. C'est-à-dire, on demande quelque chose à Dieu,
ouais.
mais déjà on remercie avant
ouais.
même.
Ouais.
Pourquoi ?
Alors, avant même de l'avoir reçu, parce qu'on est persuadé dans la foi que Dieu il a écouté notre prière. Alors déjà, ça, c'est énorme. Vous voyez ? C'est comme ce petit Théophile qui demande un vélo à son papa, et rien que le fait que son papa était attentif, l'a écouté, etc., et ben rien que pour ça, Théophile, il peut déjà le remercier, avant même d'avoir son vélo. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est très important hein, de remercier avant même d'avoir reçu. Et puis, c'est aussi à cause du fait, avec Dieu, qu'on n'est pas forcément exaucé comme on l'attendait. Voilà.
Donc c'est quoi ? C'est une manière de se préparer que de dire merci déjà.
Alors,
avant, c'est ça ?
C'est une manière
à recevoir autrement.
Voilà, exactement. C'est une manière de se préparer à le recevoir autrement, c'est-à-dire, enfin, une manière de reconnaître que ce que Dieu va me donner, c'est exactement ce qu'il me faut, mais c'est peut-être pas tout à fait ce que j'avais imaginé.
Alors, est-ce que vous pourriez voilà. prendre un exemple à sortie de votre chapeau ? Peut-être
un peu
piège, mais...
Non, c'est pas un piège, mais il faut qu'il y ait un exemple qui me vienne. Je vais vous donner un exemple très personnel. Mais c'était à propos de mon papa, justement, qui est mort il y a 9 ans, qui avait un cancer. Hein. Et avec mes frères et sœurs, on a beaucoup prié, parce que c'était un super papa. Enfin, il est toujours, mais maintenant il est mort. Il avait vraiment un charisme de paternité. Avec mes frères et sœurs, on a beaucoup prié. Hein. J'ai célébré les messes, etc., pour la guérison de papa. Vous voyez ? On a demandé précisément la guérison de papa. Et en fait, bah, papa est mort. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché par la suite, j'ai découvert ça, c'est que je n'ai pas été révolté une seconde par le fait que ma prière n'ait pas été exaucée comme je le souhaitais, c'est-à-dire la guérison de papa. Vous voyez ? Je me suis pas posé la question, mais qu'est-ce qui m'a donné ou... En fait, je l'ai vu par la suite. C'est par un neveu et une nièce qui étaient en train de parler comme ça après la mort de papa, donc les petits-enfants de papa. Et il y avait cette nièce qui disait à mon neveu, tu sais, grand-père, maintenant, il sera plus jamais malade. C'est après la mort. Moi, j'entends ça, un enfant qui me dit ça, quoi. Donc ma nièce qui dit ça. Et là, ça m'a fait comprendre qu'en fait, moi, je demandais une guérison temporelle pour ici-bas, et Dieu, il m'a donné une guérison éternelle, quoi. C'est-à-dire que papa, il sera plus jamais malade. voyez. Donc là, ça m'a aidé parce que j'ai compris. Enfin, je suis entré dans cette compréhension et il a fallu du temps pour y rentrer. Mais parce que je suis entré dans cette compréhension, j'ai pu remercier le Seigneur d'avoir exaucé ma prière bien plus, de manière bien plus forte, bien plus grande que ce que j'avais imaginé au départ.
Ben merci de la générosité de cet exemple parce qu'il est, très beau et, très parlant. L'enfant donc a fait son tour en vélo. Il a chanté toute sa joie aussi.
Ouais, c'est la louange ça.
C'est la louange.
Ouais, la louange, c'est-à-dire le fait de d'applaudir Dieu pour ce qu'il est. Hein. C'est-à-dire de se tourner vers Dieu pour ce qu'il est. On lui demande rien, on le remercie pas, mais on dit t'es vraiment le meilleur. T'es alors l'exemple type de louange, c'est le Gloria à la messe. Hein. Toi le seul saint, toi le seul Seigneur, toi le vrai Dieu, etc. Vous voyez. Donc ou le Magnificat de la Vierge Marie. Hein. Mon âme exalte le Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles. Voilà, ça c'est l'exemple type de la louange. On se tourne vers Dieu pour les merveilles qu'il a fait pour nous. Quoi.
Quelle différence avec l'adoration quand on, à la fin de la journée, on se pose et on regarde comme ça.
Ouais, voilà,
son papa regarde son papa.
Compris.
Le roi de gloire, dit le psaume, ce Dieu toujours plus grand, dit saint Augustin.
Ouais.
Quelle différence?
Alors, la louange, c'est une prière qui reconnaît plus immédiatement que Dieu est Dieu. L'adoration, ça va être une prière, une attitude de l'homme qui se reconnaît créature par rapport à son créateur, qui se reconnaît complètement dépendant de son créateur. Voilà. C'est-à-dire comme ce petit enfant qui le soir regarde son papa et se dit « sans lui, je pourrais rien faire ». Ça, c'est l'adoration.
Prière d'intercession, le lendemain, donc il demande pour son petit frère. Juste, on peut mélanger à ça. Vous vouliez prendre l'exemple du western pour nous introduire après, on va dire, au cœur de la prière.
Oui.
Reprenez ces exemples. Il y a différents types de films, différents thèmes et différentes expressions dans les films.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, il y a différents, comme de même qu'il y a différents styles de prière, le chapelet, la Lectio Divina, le groupe de louanges, enfin, etc., etc. De même, il y a différents styles dans les films, hein, le western, le policier, le film fantastique, etc. Et dans ces différents styles, eh bien, il y a des formes, des thèmes à côté desquels qu'on peut prendre ou pas. En fonction de notre état, enfin de tout un tas de choses. Et alors, dans la prière, ça va être les 5 formes de prière qu'on a données, là. Et dans les films, ça va être, par exemple, le thème de la vengeance, le thème de l'amour, le thème de la rédemption, etc. Vous voyez, donc, différents thèmes aussi, comme ça, qui font qu'un film a sa particularité. De même que ces différentes formes de prière font que bah, le chapelet a sa particularité, l'Alexio Divina a sa particularité, etc.
Voilà. Et à vous entendre, quelque part, il faudrait quand même apprendre à regarder un peu tout, c'est...
Oui, oui, oui. Bah, de même que pour quelqu'un qui aime le cinéma, c'est mieux qu'il regarde un peu tous les styles de films et qu'il apprenne à apprécier aussi les différents thèmes dans les films. Ça, c'est important.
Alors, les expressions, justement, dans les films, vous faisiez un lien avec les différentes expressions
ouais,
de la prière,
ouais.
La prière vocale, la méditation, l'oraison. On retombe sur nos pattes quelque part, puisque dans le fond, c'est une introduction à l'oraison, cette série d'émissions.
Ouais, voilà. Et on arrive à l'oraison, enfin. Alors, on a 3 grands types d'expressions de la prière, ou 3 expressions majeures de la vie de prière, si vous voulez. C'est donc la prière vocale, je parle, la prière de méditation, je réfléchis, et puis la prière d'oraison, où là, je fais silence. Hein. Et de même que pour reprendre l'analogie avec le cinéma, hein, de même que dans le film, on a 2 grands types d'expressions du cinéma. Hein. C'est, enfin, je ne m'y connais pas plus que ça, hein, mais parce que j'aime bien, quoi. C'est le premier type, c'est l'expression visuelle, voilà, donc par l'image ou par des mots, hein, et des mots écrits sur l'écran. Et puis l'expression auditive, par la parole des acteurs, par la musique ou bien par les bruits, quoi, voyez. Donc, c'est 2 manières d'exprimer, d'expression dans le cinéma. Et ben, de même, dans la prière, on aura 3 manières d'expression, hein, de la prière. Donc, je les redis, hein, c'est important, la prière vocale. La méditation et l'oraison. Hein. Et donc, et chacun aura sa manière d'exprimer cette expression, si je peux parler comme ça. Hein. De même que, enfin, au cinéma, enfin, moi, vous parliez des westerns, j'aime bien les westerns, Emmanuel, mais il y a, j'aime bien les vieux westerns de John Ford, mais ça va pas être tout à fait la même manière de filmer, d'exprimer visuellement l'image que, par exemple, Quentin Tarantino dans ses westerns, quoi. Vous voyez? Hein, et bien de même, la prière vocale, elle sera différente si elle est prononcée par un moine bénédictin qui chante en grégorien tous les jours les louanges du Seigneur, ou si elle est exprimée par, euh, par un fidèle du renouveau charismatique qui va chanter le Seigneur en français en levant les mains au ciel, quoi, oui.
Si on prend un autre exemple, un autre auditeur type, on va dire une femme qui habite dans le rural, dans le monde rural, qui a plus de 65 ans, qui est une femme pratiquante, mais qui n'a pas peut-être une expérience personnelle de la prière. Elle vous a écouté, elle a probablement compris cette image, mais de là à prendre un temps, on va dire tous les jours, où on se risque seul à essayer de rentrer en relation avec Dieu et de cultiver cette relation, c'est un pas qu'on ne se sent pas de franchir si on n'est pas accompagné soit par Radio Présence, soit par un carme. Alors qu'est-ce que vous pourriez lui dire à cette femme ?
Alors, vous faites bien parce que la grande difficulté, c'est effectivement d'être seul, quoi, au départ. Et c'est important pour cette femme qu'elle trouve, j'allais dire, des compagnons de prière, enfin d'autres personnes comme elle qui cherchent à rentrer en relation avec Dieu pour être soutenue. Et si c'est l'intérêt de tous les groupes de prière, si vous voulez. Si on se retrouve à plusieurs pour prier, ça nous motive. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut absolument... qu'il faut essayer de faire. Quoi.
Mais on trouve parfois, pardon je vous coupe, mais on trouve parfois un groupe de chapelet dans une paroisse, mais par contre un groupe qui aide à s'essayer à l'oraison...
C'est plus difficile. Alors déjà qu'elle essaye seule, en se disant que tous les matins, les carmes, ils font ça à 6h30 et qu'en fin de compte, elle n'est pas toute seule. Puisqu'il y a tous les frères et sœurs, enfin les carmes, les carmélites et puis tous les autres religieux qui prient, qui ont ce temps de prière silencieuse. Et donc, dans ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire la communion les uns avec les autres, eh bien, on n'est jamais seul, quoi. Mais alors ça, c'est une question de foi, parce qu'il faut... C'est pas très sensible, mais cette émission peut nous aider à le sensibiliser un peu, quoi. Parce que, enfin voilà, moi, je vous dis que vous n'êtes jamais seul.
Il faut se lancer, en tout cas.
Il faut se lancer, voilà. Et c'est ce que nous dira notre mère Sainte Thérèse de Jésus, dont on parlera après, que la première chose à faire, c'est se déterminer.
On va faire une deuxième pause, et puis on va vous retrouver donc, pour continuer à parler de la prière, donc trouver Dieu chez soi pour cette deuxième émission de cette série. Je vous rappelle, chers auditeurs, que nous sommes en pleine semaine de radio, donc nous avons besoin de vous. Je vous prends un autre exemple. Une heure de programme sur Radio Présence, c'est 250 €. Et j'allais dire, et encore, c'est pas cher. France Bleu, c'est 750. France Inter, c'est plus de 7 000 €. Vous voyez, vous avez un frère carme pour 250 € pendant une heure. Et ben ça, je peux vous dire, il faut le trouver sur le marché. Allez, soutenez-nous, appelez au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou alors un site internet www.radioprésence.com.
Radio Présence dans le Lauragais 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Trouver Dieu chez soi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, deuxième donc de la série, avec Jean-Mariam de l'Enfant Jésus, qui est religieux carme et qui nous accompagne pour nous parler de la prière. Alors, vous êtes carme, les carmes ont, on va dire, une mère particulièrement, qui s'appelle Sainte-Thérèse d'Avila. J'ai appris au long de mes années de journalisme dans les médias chrétiens qu'il y avait en fait deux grandes écoles pour faire oraison, comme on dit, donc cette prière personnelle quand on a fermé la porte de sa chambre et qu'on ne saisit pas, on va dire, directement son chapelet, par exemple. C'est la méthode ignatienne, donc c'est la méthode des jésuites, et puis la méthode thérésienne. Alors, quid de la méthode thérésienne? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous?
Alors, en fait, la particularité de la méthode thérésienne, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Enfin, il y a peut-être des frères carmes qui bondiraient en entendant ça, parce que ça ne veut pas dire que ça part dans tous les sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de méthode, mais surtout des convictions. Et ce que veut nous enseigner Thérèse, c'est une très grande liberté en la matière. Et la première conviction que Thérèse veut nous enseigner, c'est que Dieu est un bon père qui nous aime. C'est que Dieu est amour. Si l'image du père vous gêne, prenez l'image de l'époux. Enfin, si l'image de l'époux vous gêne, prenez l'image de l'ami. Enfin, vous voyez, ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut établir une relation d'amitié, on pourrait dire amoureuse, avec chacun d'entre nous, quoi. Voilà, donc ça, c'est la première conviction de Thérèse. Et puis, une autre conviction qui est très très forte chez elle, c'est qu'il faut savoir se déterminer, une fois qu'on a compris que Dieu est amour, que Dieu est un bon père, que Dieu est un excellent ami, que Dieu est le meilleur des époux, eh bien, il faut se déterminer à rentrer dans cette relation avec lui.
Alors, pourquoi cette... Parce qu'on a l'impression qu'il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut à la fois une énorme volonté et en même temps derrière pour découvrir une grande liberté.
Oui, exactement, exactement. Alors, ça, vous faites référence à tout ce qui a pu être dit lundi dernier, avec justement que l'homme est fait pour la prière, mais qu'en nous, il y a beaucoup de choses qui ont enfoui cette relation avec Dieu, qui l'ont cachée. Et c'est à l'homme, justement, d'apprendre à redécouvrir qu'il est fait pour Dieu, qu'il est fait pour vivre avec Dieu. Et donc, cette volonté, elle est là pour se dire, bah, j'ai compris que je suis fait pour Dieu, j'ai compris que Dieu m'attend dans la prière. Hein, et donc, je vais tout faire, quoi qu'il arrive, pour préserver un temps que je vais prendre avec lui.
Pourquoi est-ce que c'est si important d'être déterminé? Est-ce à dire que je l'avais posé la question à votre frère la semaine dernière, que... Il y a un combat, et pourquoi il y a un tel combat?
Oui. Alors il y a un combat, bah, parce que c'est tous les animaux dont il vous parlait la semaine dernière dans la jungle de notre cœur, quoi, enfin de notre âme. Hein. C'est-à-dire tous ces animaux, ça peut être le paresseux, ça peut être le lion, ça peut être qui nous éloigne, qui nous empêche, hein, d'établir cette relation avec Dieu. Et ces animaux, ce sont les passions, quoi, en fin de compte. Hein, il ne s'agit pas non pas de se laisser gouverner par nos passions, mais de les gouverner. Et donc, en se déterminant, par la volonté, eh bien, on apprend tout doucement à gouverner nos passions et à les orienter vers leur fin ultime qui est Dieu, quoi.
Alors, donc, les convictions de Sainte-Thérèse d'Avila à propos donc, de cette prière personnelle, Dieu est amour, il veut établir une relation d'amitié avec nous, il faut une ferme détermination.
C'est ça. Alors, Sainte-Thérèse, elle dit, c'est excellent, une ferme détermination, c'est-à-dire...
Détermination déterminée.
Ouais, voilà, une très grande détermination déterminée, quoi. vous voyez, c'est pour insister, quoi, pour dire allez-y les filles, faut vraiment y aller, quoi. Enfin, les filles, parce que c'était ces filles carmélites, quoi.
Et alors après, vous vouliez parler du recueillement et de la liberté de Dieu dans la prière.
Voilà. Alors ça, c'est très important chez Thérèse. C'est que, et c'est ce que c'est appuyé sur les Saintes Écritures, hein, le petit passage qu'on a écouté en début de cette émission, de dire le Seigneur qui nous dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme sur toi la porte, ferme sur toi la porte. Ça, c'est le recueillement, vous voyez? C'est-à-dire, je me mets dans les dispositions pour être complètement en Dieu, quoi. Pour être tourné vers Dieu. Donc, je vais arrêter la radio. Enfin, pas maintenant, chers auditeurs. Hein, après cette émission, quoi. Mais voilà, j'arrête la radio, j'éteins l'écran. Je mets mon téléphone portable sur avion ou sur pause, enfin je sais pas comment on dit, quoi, parce que j'ai pas de téléphone portable. Voilà, toutes les choses extérieures qui me risquent de m'entraîner loin de Dieu, j'éteins tout. Voilà, je ferme la porte à tout ça et je me tourne vers Dieu. C'est le recueillement. Hein. Et Thérèse insiste beaucoup sur ce recueillement, c'est-à-dire sur le fait d'être là uniquement pour Dieu. Hein. Ce qui est particulier dans l'oraison avec Thérèse, c'est qu'elle va distinguer les moments d'oraison et la vie d'oraison. Donc ces moments d'oraison où je ne suis là que pour Dieu, c'est-à-dire je me coupe à tout, et je prends... alors nous, on a de la chance, les carmes et nos sœurs carmélites, c'est dans nos constitutions, on nous demande de faire 2 heures d'oraison par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est-à-dire 1 heure le matin où je suis là qu'avec Dieu, où je ne réponds pas au téléphone, où je ne fais rien d'autre que d'être avec Dieu dans la chapelle avec mes frères, et le soir. Hein. Mais peut-être nos auditeurs, ils disent, moi, je ne suis pas carme, je ne suis pas carmélite, je ne peux pas prendre autant de temps. Mais peut-être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, vous voyez, se déterminer à prendre un tout petit peu de temps, rien que pour Dieu.
Et on voilà. peut le dire au passage, quand on a décidé 5 minutes, ce n'est pas 5 minutes un jour, puis 10 minutes voilà. demain, puis un quart voilà. d'heure.
Ce qui est très important pour notre Mère Thérèse, c'est justement cette régularité hein, dans la pratique. C'est comme...
Step
comme...
by step.
Ouais, alors je ne fais pas d'anglais, alors.
C'est pas elle qui l'a dit. Hein.
Voilà. Mais
un voilà, pas donc... après l'autre, ça veut dire.
Ah d'accord, okay. Désolé, j'ai jamais fait d'anglais de la vie. Mais c'est pour vous dire que, effectivement, ce qui est très important pour notre Mère Thérèse, c'est de se déterminer à prendre chaque jour un petit peu de temps. Vous voyez, notre sœur Sainte Élisabeth de la Trinité, quand elle parlait de l'oraison à sa maman, elle l'invitait à prendre un quart d'heure d'oraison par jour, un quart d'heure pour une mère de famille. Et elle lui disait, si un quart d'heure t'as du mal, eh bien prends 3 fois 5 minutes. 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Et en fait, c'est en se déterminant à prendre comme ça un temps rien que pour Dieu, un temps d'oraison, que toute notre vie, elle va devenir tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, une oraison, c'est-à-dire un moment où on est présent à Dieu et où il est présent à nous. On est plus attentif à sa présence et on apprend à vivre avec Dieu et dans son amour. Quoi.
Qu'est-ce que ça installe, frère Jean-Marien de l'Enfant Jésus ? J'allais dire, qu'est-ce que ça change ? Ça, c'est peut-être un peu trop large comme question. Il y a une phrase que vous m'avez donnée, qu'on cite souvent à propos donc, de Sainte Thérèse d'Avila, l'oraison mentale. Donc, c'est cette forme de prière qu'on décrit depuis le début de l'émission. Hein.
Oui.
Et à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié, oui. pardon, où l'on s'entretient, je vais y arriver, souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Je vais le voilà. relire puisque j'ai bafouillé. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sent aimé. C'est une promesse. On se dit, bon, ça, c'est Sainte oui. Thérèse d'Avila. On peut se dire que ça à quoi ça vient tout seul à un moment.
C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ça vient tout seul. En fait, c'est un don. Hein. Vous voyez, il faut bien distinguer aussi que la première chose que nous, on a à faire, c'est se déterminer et se disposer. Et je me dispose comment ? En prenant du temps, en laissant du silence pour Dieu. Et si je me suis disposé, si je suis mis dans des bonnes dispositions, hein, eh bien le Seigneur, quand il voudra, c'est quand il voudra. Peut-être ce sera la fin de ma vie, peut-être ça va être... Non, ce ne sera pas seulement la fin de ma vie, parce qu'il veut nous encourager, donc quelquefois il nous le fait sentir bien avant, quoi. Mais il nous donnera un moment où, effectivement, je suis bien, je réalise que Dieu est là. Je me dis, mais alors ça a pu être dans une église, quand je suis entré dans une église, ça peut être dans la nature, ça peut être... moi, je me souviens une fois, j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'étais allé dans une abbaye bénédictine, et en arrivant dans cette abbaye bénédictine, au fond, bah, le Seigneur m'a fait ce don de sa présence. J'étais au fond, en prière, pendant 5-10 minutes, et d'un seul coup, je me suis dit, mais ouais, c'est une certitude, il est là, quoi, vous voyez ? Mais c'est pas quelque chose que je fabrique, il me l'a donné. Et je m'en souviens encore plus de 30 ans après en réalisant quoi, que c'est Dieu vraiment qui donne quand il veut. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais...
Donc ça veut dire que la prière, c'est aussi une quête, c'est-à-dire qu'on voilà. peut quelque part chercher à avoir la certitude de l'existence de Dieu, mais dans le fond, il faut se mettre en chemin.
Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Hein, c'est-à-dire se mettre en chemin, se disposer, c'est des mots que nos saints utilisent beaucoup, ça, se disposer son cœur à accueillir Dieu. Et quand Dieu voudra... Là, ce n'est pas nous qui sommes les maîtres. Quand Dieu voudra, eh bien, il nous fera percevoir sa présence. Alors, ça peut être un instant très bref, ça peut être un peu plus long, et puis ça peut être aussi des années sans rien du tout, quoi. Enfin, mais ça, c'est Dieu qui est libre, hein. Vous voyez, il est... Mais souvent, quand on commence, il nous encourage. Alors, il nous donne des petites... je ne sais pas comment dire, quoi. Pas des cacahuètes, quoi.
Mais... Pas des vélos, mais des friandises.
Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. Des friandises pour nous encourager, quoi. Hein.
Je vous propose de prendre un troisième exemple, exemple d'auditeur type. Cette fois, c'est peut-être ceux qui écoutent plus cette émission. On appelle ça les messalisants dans le jargon des enquêteurs d'opinion. Messalisant, c'est donc qui va à la messe au moins une fois par mois, qui a l'habitude de prier, donc de temps en temps de penser à Dieu, de peut-être de dire un chapelet, etc. Ouais. Mais de là à se dire que Dieu peut devenir un ami, il y a un pas qui est difficile à franchir. Oui. Est-ce que la prière peut nous aider à franchir ce pas ?
Moi, il me semble que ah oui, carrément. La prière, je pense que vraiment la prière peut nous aider à franchir ce pas, quoi. C'est-à-dire, c'est en priant. Moi, je pense que c'est en priant qu'on découvre que Dieu est un ami. Et c'est en découvrant que Dieu est un ami que ça nous fait prier. Enfin, les deux vont ensemble, vous voyez. Hein. Donc, il me semble que Dieu n'attend qu'une chose, c'est que chacun de nous déterminions à nous tourner vers lui et puis à ouvrir notre cœur pour le laisser rentrer, quoi. Mais il y a un premier pas à faire, quoi. Alors, comme vous posiez la question tout à l'heure, comment faire pour convaincre les auditeurs de faire ce premier pas ? Mais ils l'ont déjà fait en écoutant cette émission, donc c'est bon, maintenant le Seigneur va faire le reste.
L'amitié avec Dieu, ça ressemble à quoi ? C'est peut-être un peu délicat, c'est peut-être un peu trop intime, mais vous pouvez citer un exemple de saint dans ces cas-là, ou reprendre Sainte Thérèse d'Avila. C'est-à-dire, souvent, quand j'invite les gens dans cette émission à témoigner, je leur dis, la bonne manière de vous préparer, voilà, c'est de vous dire l'avant, le pendant et l'après. Vous nous dites, voilà, je vivais ça, il s'est passé ça, et maintenant, quand je regarde dans le rétroviseur, voilà la différence.
Mais alors, en fait, il y a autant de personnes, autant d'exemples, autant de témoignages différents, si vous voulez.
Un qui vous tient, par exemple, vous comme Carme,
à moi,
vous
un disant, qui tient, c'est voilà l'enfant Jésus, quoi. À moi, c'est l'enfant Jésus, quoi. C'est parce que, mais sans, vous voyez, c'est ça peut-être qui est important de réaliser, c'est que le Seigneur nous saisit pas forcément quand on s'y attend et pas de la manière qui semble nous convenir. Mais en fait, ça nous convient parfaitement parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes on se connaît. Et alors, moi, pour mon pauvre petit cas, quoi, c'est alors que j'étais jeune prêtre. Dans une paroisse où il y avait l'enfant Jésus, hein, une statue miraculeuse de l'enfant Jésus, que je trouvais un peu ridicule, quoi, ce témoignage de l'enfant Jésus. Enfin, vous voyez, une poupée, quoi, en bois, etc. Et ben un jour, il m'a saisi. Un jour, j'étais en prière devant lui. Ça allait pas très bien, parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie des religieux aussi. Hein, et j'allais me confier à lui, à l'enfant Jésus. Hein, et il m'a complètement saisi. Et il est rentré dans ma vie. Et j'ai découvert que l'enfant Jésus pouvait s'intéresser à moi et pouvait me consoler, quoi. Vous voyez ? Donc, moi qui n'aimais pas cette statue de l'enfant Jésus au départ, qui trouvais ça un peu ridicule parce qu'il y avait des religieuses qui s'en occupaient, alors je me disais, ouais, elle joue à la poupée à leur âge. Enfin, vous voyez, c'était un peu ridicule. Et bien, j'ai été saisi là, justement, où je m'y attendais le moins, quoi. Et où je m'y attendais pas du tout. Enfin, au moment où je m'y attendais pas du tout. Voilà. Donc, c'est pour donner l'exemple de comment Dieu il peut rentrer dans la vie de quelqu'un sans que cette personne s'y attende. Mais il s'en rend compte de toute façon, ça c'est sûr.
Merci beaucoup, frère Jean-Mariam de l'Enfant Jésus, de nous avoir pris par la main pour cette deuxième émission et nous faire rentrer plus avant dans la prière. Rendez-vous est donné donc lundi prochain. Il nous reste encore deux émissions. On parlera de l'oraison contemplative la semaine prochaine, si j'ai bien compris, qui est un peu le cœur de l'oraison.
Alors il y a peut-être un changement, ce sera peut-être les distractions dans l'oraison.
Ah très bien, les distractions, très bien. Quelques informations pour finir et pour prolonger cette émission, j'allais dire en partenariat avec les éditions du Carmel ou presque, deux livres, Qu'est-ce que l'oraison ? C'est donc aux éditions du Carmel, ou alors l'oraison thérésienne, toujours aux éditions du Carmel. Pour ça, vous pouvez appeler un numéro de téléphone qui n'est pas celui de Radio Présence, donc ne leur faites pas votre don, 05 62 47 16 86, 05 62 47 16 86, ou alors sur internet, vous tapez édition avec un S du Carmel. On vous envoie ça sous 24 heures. Et si vous habitez Toulouse, vous pouvez aller le chercher. C'est click and pray, comme on dit, click and pay, c'est-à-dire vous cliquez et puis vous venez retirer votre bien. Et ils auront les mains lavées. Qu'est-ce que l'oraison, ou alors l'oraison thérésienne aux éditions du Carmel. Un grand merci à vous.
Avec joie.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.